who you are.
Bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous avec les auditeurs. À votre avis, Abdourahman Dia à la présentation, Michel Joseph à la partie réalisation. Aujourd'hui, nous allons parler des matières premières en Afrique. Le prétexte, en fait, le groupe italien Eni annonce la découverte d'un important gisement de pétrole au large de la Côte d'Ivoire. Il pourrait contenir ce gisement jusqu'à 2 milliards de barils. D'importantes découvertes ont également été faites ces dernières années dans des pays comme le Sénégal et la Mauritanie. Et en tout, l'Afrique représente 30% des réserves mondiales en pétrole, en gaz et en minéraux, mais reste tout de même le continent le plus pauvre. Alors comment le continent peut-il tirer un meilleur profit de ses ressources naturelles? C'est la question que nous avons mis sur la table aujourd'hui et nous avons déjà des auditeurs. Tidiane Botegeba est à Douala. Bonsoir Tidiane.
Oui, bonsoir Koto Abdourahman et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA, particulièrement à M. Mouktar Lofi qui nous écoute tous les jours du côté de la capitale guinéenne, d'ailleurs qui nous enregistre cette émission tous les jours, en tout cas qui nous envoie ça sur WhatsApp.
Alors bravo, bravo, merci beaucoup, allez-y.
Voilà, comme je disais tantôt, en tout cas dans mon message, moi je pense que l'Afrique quand même doit quand même avoir des institutions fortes et non quand même des hommes forts. Parce que en tant que l'Afrique quand même a des hommes forts et non des institutions fortes, en tout cas cette richesse dont l'Afrique regorge, en tout cas ne serait jamais quand même profitable à la population africaine. Parce que si je prends quand même l'exemple de la Guinée, mon pays d'origine, en tout cas c'est d'ailleurs c'est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, mais jusqu'à présent il y a des préfectures. Par exemple, ma préfecture d'origine, celle de Malienberg, nous, on ne connaît pas quand même jusqu'à présent le goudron ni quand même le robinet. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même des présidents plutôt qui travaillera quand même à la solde quand même de la population et non à la solde de l'Occident.
Et parce quand vous parlez... Quand vous parlez d'institutions fortes, vous faites allusion aussi aux, disons, aux instances de régulation et de contrôle pour qu'on sache où va cet argent qui provient des ressources, n'est-ce pas?
Oui, vous savez, toute chose quand même demande quand même du contrôle. Il faut quand même du contrôle. Mais en Afrique, c'est du fair play. Chacun quand même fait de ce qu'il veut. Donc nos présidents qui sont là, ce sont des présidents, voilà, soit les présidents dictateurs, qualifiés de dictateurs par l'Occident, parce que tous les présidents quand même, qui font l'affaire des Africains, on les traite quand même de dictateurs. L'exemple de Kadhafi. Kadhafi, quand même, il faisait quand même l'affaire de Libyens, parce que les Libyens ne payaient pas l'eau, ne payaient pas l'électricité. Donc, voilà, ils ont quand même semé le chaos là-bas. Si je prends l'exemple de la Guinée, mon pays d'origine, actuellement, on qualifie quand même Alpha Condé de démocrate. La Guinée, c'est un pays de démocratie, mais malheureusement, c'est la dictature. Et Alpha Condé ne font pas quand même l'affaire de Guinée, parce que s'ils faisaient quand même l'affaire de Guinée, c'est que Tidiane Botegeba, en tout cas, ne serait pas jusqu'à présent au Cameroun.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup Tidiane et bon week-end à tous nos auditeurs de Douala, mais également du côté de la Guinée. Alphonse Mbouaki est à Kinshasa. Alphonse, bonsoir.
Bonsoir Abdi. Moi, je pense que lorsque le négocie les accords pour l'exploitation de nos ressources naturelles, les prix doivent être fixés par nous-mêmes. On a l'habitude de voir les acheteurs qui sont les occidentaux, les grands pays, fixer des prix. Et ça ne profite pas à nos revenus. Donc, je pense que les termes de l'échange doivent être conclu équitablement pour que qu'on aboutisse à des divisions gagnant-gagnant. Voilà. De deux, lorsqu'on exploite nos matières premières, les multinationales qui viennent le faire dans nos pays, qui investir dans des projets de développement dans le lieu où ils exploitent ces matières premières. Par exemple, au delta du Niger, il y a du pétrole. Mais ils doivent aussi investir sur place. Investir dans l'éducation, les multinationales qui exploitent sur place. Investir dans les hôpitaux, investir dans les infrastructures de développement, dans les populations. De trois, je pense que les pays occidentaux, nous devons obliger aux pays occidentaux, aux pays qui achètent nos matières premières, à transférer les technologies sur place, à transférer les équipements sur place. Lorsqu'on exploite le pétrole, il faut les raffiner sur place. Il faut les traiter nos briques sur place au lieu de les exporter là-bas pour le traitement. Et ils nous reviennent aussi en produits finis. Donc c'est trop poussé et ça ne profite pas aux pays. Au pays propriétaire de matières premières. De trois, le Congo, par exemple, a conclu un code minier avec les multinationales. Mais ce code minier-là doit être à l'avantage des deux parties, la partie qui vend et la partie qui achète. Donc, en plus, vous savez que lorsqu'on aurait conclu des accords qui soient profitables aux deux parties et non des accords bidons, je pense que nous devons aussi regarder à la gestion de ces biens. Lorsque nous avons des revenus consistants ici, nos gestionnaires aussi doivent être contrôlés. Comme le disait le premier auditeur, il faut des institutions qui contrôlent,
les revenus. D'accord. Et vous avez merci beaucoup, Alphonse. Vous avez également touché un peu à cet aspect de la transformation locale. Et le Nigeria, par exemple, qui est le premier producteur de pétrole d'Afrique avec 1,9 million de barils exportés par jour. Le secteur, il n'y a que 4 raffineries et le gouvernement est obligé d'investir récemment beaucoup d'argent pour essayer de les faire fonctionner. Ce qui fait qu'une bonne partie de l'essence, du carburant consommé sur place est en fait importé, alors que le Nigeria lui-même est un pays exportateur de pétrole. Une sorte de contradiction, n'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup. Nous avons Léon Akonda, toujours à Kinshasa. Léon, bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir à
tous. Oui, allez-y, on vous écoute.
Oui, moi, je pense que toute la population africaine bénéficie de ses propres ressources. Il faut que les politiques africaines d'abord changent. Il faut que le mode de gouvernance change. Pourquoi? Parce que quand vous trouvez que le régime, dans leur pouvoir, quand ils arrivent au pouvoir, ils privilègent d'abord leurs propres intérêts. Dans quelle façon? La population, dans tout ce qu'ils font, les accords, les relations et les coopérations, la population n'est pas vraiment vue au centre de leur pouvoir, au centre de leur coopération, au centre de leur discussion. Ils privilègent d'abord l'intérêt de celui qui est venu peut-être exploiter, réserver un pays tel que le nôtre, la République démocratique du Congo, l'un des pays les plus riches à potentialité. Où à l'époque, quand les historiens, quand ils sont venus découvrir, ils ont dit que le Congo est une mine d'or. Mais jusque-là, le pays, la population congolaise n'a pas senti qu'ils sont riches par rapport à leurs propres minéraux. Alors, je pense que si on met la population centre des intérêts, nous pouvons quand même nous passer du système de dirigeants africains. Parce que la plupart des dirigeants africains sont des dirigeants, c'est-à-dire ils veulent bouffer et bouffer et encore bouffer. Ils veulent encore être riches et s'enrichir par rapport à eux-mêmes, sans penser que la population qui les a accompagnés peut-être vers les élections, la population qui est en cours, la population qui les soutient, tout à sa place. Vous voyez? Alors, dans ce sens-là, nous pouvons dire aujourd'hui que les politiques doivent changer et on doit mettre la population au centre de leur projet et le peuple africain pourra un jour espérer vivre ses propres ressources.
D'accord, merci beaucoup Léon Akonda depuis Kinshasa en République démocratique du Congo. Nous avons Charles Bazeman en ligne de Ouagadougou, n'est-ce pas, Charles?
Bonsoir à vous et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices.
Bonsoir. Vous vous dites que les matières premières ne manquent pas en Afrique, mais c'est ça, ce sont les, c'est la gestion de ces ressources qui fait défaut.
Oui, effectivement. Nous devons avoir un propos aussi dit de nos dirigeants. Parce que moi, je dis que nous avons, nos dirigeants ont un manque de vision, quoi. Mm-hmm. Parce que j'ai l'impression que il se bat pour donner au pouvoir, voilà, pour profiter de la population, non que la population va profiter de leurs vies. Donc, si vous prenez dans tous les pays africains, c'est quel pays qui a fait que son souci sur les pauvres? Je vois même pas un pays qu'on va citer qui est sur les pauvres. Mais mais la population, et la famille, c'est en Afrique. Les guerres aussi, c'est en Afrique. Mais permettez-moi, si les femmes évoluent dans le sujet, arrêtez-moi. D'ailleurs, si vous voyez actuellement que nous sommes dans les guerres en Afrique, c'est parce que les Européens, les Asiatiques et les Américains, voilà, malgré la richesse de notre sous-sol, ils financent nos frères et on s'apprécie et ils profitent de notre sous-sol. Voilà, pour s'enrichir. C'est normal.
Bon, si c'est le cas, voilà, pourquoi nos frères tombent dans le piège, n'est-ce pas?
Pour que la population gagne de quoi manger. Pendant ce temps, nous, nos dirigeants sont là, fermés les opposants en prison, ils ne cherchent même pas à évoluer. Voilà, on vient de découvrir, bon, ce n'est pas encore confirmé, mais ils viennent de découvrir, voilà, combien de milliards de jugements de gaz. Voilà, ça, au lieu que la population va profiter de ça, ça va profiter à quelques-uns. Voilà, vous allez voir, le prix du gaz sera augmenté, le carburant sera augmenté, et la population est toujours dans la misère.
Alors, Charles,
nous avons du.
Charles, vous m'entendez?
Mais tous les vêtements viennent d'ailleurs.
D'accord.
Mais à quoi sert de se battre et d'investir des milliards pour devenir président et tu n'as pas vision pour que la population profite? Et permettez-moi aussi de dire encore que le Burkina Faso a de l'or. L'or ne profite pas. Moi, en tout cas, là où moi, je ne sens même pas l'or dans mon assiette. Voilà, mon quotidien est dur. Parce qu'on ne dit même pas que le Burkina est classé parmi les 5 pays. Parmi les 5 pays qui exploitent de l'or. Mais malgré tout ça, on est pauvre même. On n'a même pas à vivre les deux bouts. Voilà, après, c'est.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup.
De chasser nos mamans.
Merci beaucoup, Charles. On a très bien compris votre point de vue. Nous avons Idriss Sangba Ouattara depuis San Pedro, en Côte d'Ivoire. Idriss, bonsoir.
Bonsoir, VOA Afrique.
Oui, votre point de vue sur le débat du jour?
Oui, comme je l'ai dit, l'Afrique ne pourra jamais profiter de ses ressources tant qu'on aura toujours des dirigeants corrompus. C'est un sérieux problème, un vrai sérieux problème. Parce que ce sont des gens qui signent des contrats avec les multinationales sans l'aval du peuple. On ne sait même pas comment ces contrats sont signés. Tantôt on nous dit nous sommes les continents les plus pauvres, tantôt on nous dit l'Afrique est riche. Bon, à la fin on ne sait pas, on ne comprend rien. Mm-hmm. On ne peut pas comprendre qu'un pays où on extrait l'or, où on extrait le pétrole, la population vit avec une misère pas possible. C'est inacceptable. C'est inacceptable pour nos populations.
Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Idriss. Nous avons Christian Politassi à Kinshasa. Bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir à tous les auditeurs.
Oui, allez-y, on vous écoute.
Moi, je pense que ce qui est très curieux, c'est beaucoup plus les comportements des dirigeants africains. Parce que la plupart, dans leur sens, l'idée ou encore la possibilité de redevabilité a pratiquement disparu. Et généralement, les gens africains arrivent au pouvoir alors qu'ils sont loin d'être fortunés et ils se servent du coup du pouvoir pour accumuler des biens de toutes sortes par les procédés on ne peut plus frauduler. Et c'est beaucoup plus à l'occasion des attributions des marchés publics par la récupération des commissions importantes. Et donc, ce qui est, nous devons encore dire, ce qui est Abdoul, il y a encore une certaine complicité. On ne peut plus, je dirais, mafieuse entre, d'une part, les dirigeants africains, mais aussi les opérateurs économiques. Et c'est beaucoup plus dans, par des moyens, on ne peut plus, je dirais, prévoiler. Et donc, ici, ce que nous devons retenir, au-delà de cette responsabilité, il y a encore un autre défaut dans le chef de l'Afrique, c'est que l'Afrique n'a pas de lutte indépendante. Les thèses de lutte n'existent ni de moyens financiers, moins encore d'une certaine autonomie sur le plan économique. Et d'ici, les élites sont aujourd'hui appelées, ou encore les élites intellectuelles, s'alignent très souvent sur la position du pouvoir politique et économique. Et c'est beaucoup plus à cause du népotisme et de la corruption. Et donc, ce que nous devons aujourd'hui beaucoup plus chercher à faire, c'est chercher à ce que la majorité des couches de population puissent se retrouver par rapport à cette bataille. Mais un autre regard, ou encore un autre paire de mains, de manches, est que le constat est fourni par les puissances occidentales via la Banque mondiale et les FMI. Rappelez-vous, Abdoul, de la récente interview que le DG de la Zitanine a accordé à votre confrère Alain Foucault. Cela a démontré non seulement que les minéraux du Congo ont été gagés, tout simplement à cause de certains conseils. Et donc, pour endiguer ce fléau, nous pensons qu'il faudrait d'abord commencer par cultiver la conscience nationale et réanimer cette culture de la rédivabilité. Au-delà de ça, il faudrait encore encourager
justement
la gestion
Christian.
Directe par les citoyens.
Merci beaucoup et je vois que vous recommandez à tout le monde de lire le livre « À quand l'Afrique » de Joseph Kizerbo. Merci beaucoup, Kizerbo plutôt. Merci et nous avons Anissé depuis Bujumbura au Burundi. Anissé, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, allez-y, on vous écoute.
L'Afrique est riche en ressources naturelles. Mais dans la plupart des pays africains, les ressources naturelles disponibles ne profitent pas à leur peuple. Une partie des revenus tirés dans ces ressources est transférée à l'étranger de façon illicite. La plupart des gouvernements ont dit leurs engagements à orienter les nouveaux revenus tirés dans les ressources naturelles vers l'amélioration des acquis sociaux, la création d'emplois, l'opportunité d'affaires plus nombreux et de meilleure qualité. Mais la plupart des pays africains éprouvent des difficultés à augmenter les investissements au niveau approprié. La contribution des industries extractives au développement socio-économique risque donc de rester morte. Les engagements qui ont été pris n'avaient pas une place importante dans les programmes nationaux de développement.
D'accord. En tout cas, merci. Oui, mais... Allez-y. Ah, d'accord. On m'a dit que Alassane n'est plus là. Alors, Anissé, dites-moi, on a quand même des exemples de réussite. Par exemple, pour parler un peu en dehors de l'Afrique, même au Botswana, par exemple, les ressources naturelles semblent être bien gérées. Il y a ce qu'on appelle ce fonds pour les générations futures où un pourcentage de revenus tirés du diamant sont investis là-bas pour les générations à venir. C'est un fonds qui marche extrêmement bien aussi dans des pays comme la Norvège. Pourquoi ne pas s'inspirer de ces exemples?
Les gestionnaires politiques des pays concernés savent qu'ils sont face à des choix difficiles et ça est souvent complexe. Trouver un équilibre entre les investissements sociaux et les besoins d'un secteur économique. Faire preuve de transparence et savoir gérer les attentes des citoyens, mais s'assurer que les populations, tant ceux qui travaillent dans ces industries extractives, que les autres en tirent les avantages, ainsi que les générations futures. Merci, Véo.
Voilà, merci beaucoup, Anissé. Je lis ce commentaire de Jonathan Mouawa en RDC. Il dit ce qui est regrettable comme un pays, dans un pays comme le nôtre, la RDC, avec toutes ces richesses qu'il nous a été données, on est le plus pauvre et nos dirigeants sont faibles. L'Afrique a perdu ses guerriers et c'est dommage. Dismag Malgouloir nous dit, par exemple, dans mon pays, la RDC, les politiciens doivent mettre leurs ressources au profit de la communauté tout entière. Le pays doit avoir la politique d'aide sociale et surtout faire bloc, que personne ne sorte à l'extérieur du pays. Donc, il pourrait investir tout l'argent ici. Voilà, c'est un peu ce que j'ai compris dans son commentaire. Aruna Mouamadou nous dit « L'Afrique du Nord au Sud est complètement riche, mais l'Occident nous a fait comprendre que cette richesse ne va jamais combler le besoin des Africains. Voici pourquoi, c'est pourquoi ils ont passé leur temps à s'entretuer. Aujourd'hui, ils créent l'instabilité. » Voilà, donc c'est un peu son point de vue aussi. Nous avons Rémi, dictant que l'Afrique continuera à dépendre de l'Occident, nous allons jamais nous en sortir. Blaise Zongo, avec ses découvertes, l'Afrique de l'Ouest risque d'avoir plus de troubles sociaux que politiques. Et il semble donc faire référence à ce qu'on appelle la malédiction du pétrole, même si on sait qu'il y a des pays qui quand même s'en sortent assez bien. Nous avons Asmaïlou au Togo qui nous dit « La colonisation est un facteur de tout problème, et le facteur de tous les problèmes. La conscience africaine s'est limitée, d'où les réalités donc confisquées. » Voilà donc beaucoup de critiques en fait envers les dirigeants africains. Et je dois dire aussi que au Nigeria, la consommation d'essence est d'environ 40 millions de litres par jour pour une population estimée à 200 millions d'habitants. On me dit qu'on a Ali en ligne. Ali, bonsoir. Oui, allez-y, on vous écoute. Vous nous appelez d'Abidjan, c'est bien ça?
Oui, je vous appelle d'Abidjan.
Oui, allez-y. Comment est-ce que la nouvelle est accueillie en Côte d'Ivoire?
Oui, la nouvelle a été accueillie d'une part. D'autres étaient dans la joie, d'autres étaient sceptiques en fonction de ce qui se passe actuellement en Afrique. Et bien maintenant, le sujet africain est partagé. Vous voyez, figurez-vous que même l'image qui se situe ici à Abidjan, c'est le pétrole qui a été découvert, c'est l'État de Côte d'Ivoire à 10% et notre société italienne à 90%. Et vous voyez, c'est ça qui se situe. C'est ça là. Les Ivoiriens n'auront pas fait rien. Donc, vraiment, nous, exactement, nous sommes sceptiques et on attend de voir l'évolution des choses. Voilà, présentement, je ne peux pas trop me prononcer parce que je n'ai pas les informations exactes de la part de chaque parti. Donc, on ne peut pas faire un procès de question pour l'instant. On attend de voir les choses et afin de pouvoir se prononcer.
Donc c'est un peu une réaction de scepticisme pour beaucoup en tout cas, puisque la Côte d'Ivoire est déjà riche avec le cacao et le café, n'est-ce pas?
Oui. Voilà, ça va apporter un plus encore pour booster encore l'économie. Parce que en Côte d'Ivoire, depuis ce qu'on a dit, on dirait que le succès de ce pays recevait sur l'agriculture. Mais en fait, à l'aide de la mondialisation, il faut diversifier les richesses, il faut créer de la richesse. Je pense que si le pétrole et le gaz sont bien exploités, ça peut booster encore l'économie ivoirienne et puis bon, ça peut aussi, si c'est bien exploité, ça peut profiter à la population.
D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup Ali qui nous appelait de Côte d'Ivoire. Nous allons terminer avec ce commentaire de Alassane Lalogo qui était en ligne mais qu'on a perdu. Il nous dit « Le problème de l'Afrique est encore plus profond. Non seulement les pays africains gagnent très peu de l'exploitation de leurs propres ressources, tout simplement parce que ces ressources sont exploitées par des multinationales étrangères, mais aussi ils utilisent mal le peu qu'ils gagnent de ces exploitations, qui finit dans des comptes bancaires à l'étranger. » Pour inverser inverser la tendance, les pays africains doivent s'approprier graduellement les moyens, les technologies de production et de transformation nécessaires. Voilà. Un point final à cette émission, à votre avis, présentée par Abdourahmane Dia, mise en onde par Michel Joseph. Excellente écoute. Au revoir.